Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À l'écoute de Radio Kapi, il est très précisément 18h. Voici un nouveau journal. Les prix de la course en taxi ont grimpé ce jour-ci de 50 voire 100% ici à Kinshasa, selon les trajets, des prix fixés unilatéralement par les conducteurs au grand désarroi des usagers. Le problème est actuellement sous examen à la corporation. En Ituri, la société civile du Rumu salue la prolongation de l'accord militaire entre la RDC et l'Ouganda. Cette structure citoyenne plaide cependant pour l'intensification des opérations militaires contre les rebelles de l'ADF qui écument encore plusieurs villages. Notre invité, c'est le coordonnateur du programme dénommé Pouvoir choisir, appuyé dans la province de l'Équateur par le Canada. Dr Christian Malou affirme que ce programme vise la santé sexuelle et reproductive des jeunes filles et femmes, l'assainissement du milieu et la prévention des infections. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masserica, mise en onde de Polydor Basunga. Ouvrons par une page économique. Ici à Kinshasa, une hausse de 50 voire 100% du prix de transport à moto, taxi ou taxi-bus est observée ce jour-ci selon les trajets. Les prix sont fixés unilatéralement par les conducteurs au grand désarroi de la population. L'association des chauffeurs du Congo appelle ses membres à attendre les conclusions de la commission paritaire de fixation des prix qui statue sur la question. Explication d'Aubin Abedi.
Pour avoir un moyen de transport à prix normal, il faut être patient. Conséquence, plusieurs personnes traînent aux arrêts de bus parce que ne disposant pas de frais supplémentaires pour la course. C'est le cas du jeune homme qui devrait prendre une moto à bise à pompage pour se rendre à Kitambo Magasin.
Ils augmentent les prix comme ils veulent. La moto, deux fois, c'est 1000 francs, 1500, deux fois 2500 francs.
On souffre.
Pour le conducteur, cette instabilité de prix est justifiée par la hausse de prix du carburant.
Avec les embouteillages et la hausse du prix du carburant, je fais payer la course à 1000 francs congolais au lieu de 500 francs congolais.
Jean Moutombo, vice-président de la SECO, appelle les conducteurs à la patience. La commission paritaire de fixation de prix travaille sur ces dossiers.
Nous condamnons tous ces chauffeurs-là qui s'adonnent à la pratique illicite de fixement disciplinaire et aussi de la hausse des prix du transport. Il n'appartient qu'à la commission tarifaire de la ville province de Kinshasa de faire une proposition en ce qui concerne l'augmentation ou la baisse des prix du transport et à la commission qui est en cours. L'association des chauffeurs du Congo d'ailleurs est membre. Nous tous nous attendons jusqu'à ce que cette commission-là va proposer au gouvernement de nouveaux tarifs de transport.
En attendant une solution, beaucoup, au lieu d'attendre les transports, optent pour la marche à pied.
Coup d'envoi hier mercredi à Lubumbashi de la 17e édition de la semaine minière de la RDC, placée sous les thèmes « Collaborer pour construire une industrie minière résiliente et durable ». Cette rencontre de Lubumbashi réunit autour d'une même table des chefs d'entreprises minières de la RDC et d'autres pays. Pendant 3 jours en effet, ils vont parler de la promotion du secteur afin de permettre ainsi aux investisseurs de nouer des relations d'affaires. Un récit de Jean Gandou rendu par Blaise Dongala.
C'est la ministre des Mines de la RDC qui a donné le go de ses assises de 3 jours. Pour Antoine Samba, ce forum est un carrefour d'échanges et de réflexions autour du secteur minier. Elle a édifié l'assistance sous les rôles de l'industrie minière dans le renforcement de la résilience et de la durabilité de l'économie congolaise. Pour elle, l'économie de la RDC est dépendante du secteur minier qui demeure les principales porteurs de croissance et contribue de manière significative au budget de l'État. Elle a aussi indiqué que tout choc exogène sur les secteurs comporte à coup sûr un impact réel sur l'économie de la RDC dans son ensemble, les cas des effets produits par la COVID-19. Cette semaine minière réunit plusieurs centaines de personnes parmi lesquelles les miniers, les investisseurs dans ces domaines, les jeunes entrepreneurs et autres. DRC Mining Week est une plateforme d'échange pour les acteurs et investisseurs qui souhaitent développer des partenariats solides en RDC. Pendant ces temps, certains opérateurs économiques cherchent à nouer des relations d'affaires avec d'autres partenaires venus d'autres horizons.
Et puis au sud Kivu, le vice-président du groupe parlementaire de l'UDPS salue la suspension des activités de Rwandair en RDC. Freddy Moussambia, élu du territoire de Fizi, plaide pour la réhabilitation des routes entre les villes d'Uvira et de Bukavu. Il est au micro de Fiston Ngoma Yabala.
Toutes les marchandises en provenance de Dubaï, de la Turquie, de la Chine passent par le port de Dar es Salaam et utilisent les routes du Rwanda pour atteindre une grande partie de nos provinces du sud et nord Kivu. Nous demandons ainsi au gouvernement congolais, notamment au ministre des Infrastructures, à prioriser la construction de la route nationale numéro 5, RN5, entre Bukavu et Kamanyola, pour nous éviter des humiliations en passant par le Rwanda, en vue d'atteindre le chef de notre province du sud Kivu, dont il est originaire. Également, l'accélération de la construction des routes entre Goma, Beni, Butembo, Kasindi, Bunagana et la construction du pont Luvungi et Rugombo au Burundi devrait isoler économiquement le Rwanda. La route dite Ngomo est déjà construite, comme vous le savez très bien, jusqu'au niveau de Nyantende. Il ne reste que 40 km à construire.
Revenons ici à Kinshasa où le chef de la maison civile du président Félix Tshisekedi Tshilombo a échangé hier mercredi avec les gouverneurs et vice-gouverneurs récemment élus dans l'espace Grand Kasaï. C'était en présence des députés nationaux et sénateurs. Bruno Miteo-Nyenge a évoqué à l'occasion les défis communs à relever sur les manques d'électricité et des routes en dépit du fait que chaque province de cet espace dispose d'un programme de développement. Ces propos ont été recueillis par Richard Junior Kamunga.
Au nombre des contraintes évoquées, il est notamment relevé le manque de courant électrique. Malgré le potentiel hydroélectrique important de la région, les centrales, notamment hydroélectriques de Katende et de Tchala, demeurent toujours des projets inachevés que nous risquons de léguer à notre postérité. Et pourtant, c'est la clé de l'industrialisation de l'espace Grand Kasaï et de son développement. Il faut également relever comme contrainte le manque de routes viables et modernes pouvant supporter les flux des échanges commerciaux avec les autres grands pôles de développement pour favoriser le commerce à l'international par les portes de sortie vers l'Atlantique, notamment par Lobito et Benguela, en construisant la route de Kalamba-Bougie. Une troisième contrainte, pas la moindre, l'espace Grand Kasaï, c'est aussi un carrefour des routes d'intégration régionale et nationale sans lesquelles aucun développement durable ne peut être envisagé.
Partons maintenant pour l'Ituri où les acteurs de la société civile du territoire d'Irumu saluent la prolongation de l'accord militaire entre la RDC et l'Ouganda. Ils plaident cependant pour l'intensification des opérations militaires contre les rebelles de l'ADF qui écument encore plusieurs villages de la zone. Ils font remarquer que la première phase de la mutualisation des forces n'était pas efficace au regard des violences contre la population. À Bounia, la correspondance d'Isaac Remoyope.
Selon la société civile déchiffrée de Boga et Walese Vonkutu, la situation sécuritaire s'est un peu améliorée dans les territoires d'Irumu depuis le lancement des opérations contre les ADF par les forces conjointes FRDC et armées ougandaises. Certains déplacés ont regagné leur village situé le long de la route nationale numéro 4 sur les tronçons Komandaluna. Même du côté de Boga, un retour timide de la population s'observe dans la zone. Cependant, plusieurs localités dans les groupements Banda Vilenga et Bandi Bongo sont encore sous le contrôle des rebelles des ADF, affirme le président de la société civile de Walese Vonkutu. Dieudonné Malanga demande aux deux forces d'accentuer leurs efforts pour sécuriser la population.
La première phase, normalement, n'était pas efficace. Notre force FRDC et aussi UDF d'accélérer pour le moment avec les opérations de crash des ADF et aussi du territoire du Rumu pour que la population regagne leur milieu d'origine.
Même réaction de la société civile de Boga qui signale la présence des ADF vers Malibongo et d'autres localités proches. Son président Albert Basseke ajoute que la population n'accède pas aux champs à plus de 5 km dans la forêt à cause de ces groupes armés.
Il y a encore augmentation de l'effectif de la part de l'ennemi. On pense qu'avec les contrats qu'ils ont signés, on pouvait éradiquer complètement ces fléaux. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ils sont encore là.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Santé à présent. Médecins sans frontières, MSF, annonce 2 décès et 140 cas de choléra enregistrés depuis le mois de février à la prison centrale de Mounzenzé à Goma. C'est suite au manque d'eau potable et d'hygiène. Le point focal de MSF parle de l'appui de cette organisation internationale pour limiter la propagation de la maladie. Jean-Paul Kikwayabo s'est confié à Denise Lokesso.
Par semaine, on pouvait enregistrer plus de 15 cas de choléra. Mais avec notre présence, nous nageons entre 5 et 10 cas par semaine. Donc, il y a une petite diminution. Bon, en fait, le grand problème qu'il y a, nous avons la comorbidité. C'est-à-dire, en dehors des choléra, les détenus sont mal nourris. Donc, il y a la malnutrition qui s'aggrave, la tuberculose qui est là. Tout ça font à ce que la prise en charge se complique un peu. À notre niveau, nous avons décidé de faire une intervention. D'abord, la prise en charge médicale, c'est-à-dire on a approvisionné le centre par les intras. Mais ensuite, nous avons cherché à limiter la chaîne de transmission. Pour limiter ça, d'abord, on a décidé de faire la vaccination contre le choléra. Et on a vacciné plus de 92% des détenus se trouvant dans la prison. Nous avons aussi approvisionné l'eau au niveau de la prison Mounzenzé. Donc par jour, nous donnons 10 à 15 mètres cubes d'eau au niveau de la prison. Nous avons aussi décidé de vider les fosses septiques et nous passons par la sensibilisation de tous les détenus.
Notez que plus de 2000 détenus ont été vaccinés contre le choléra au mois de mai dernier. MSF offre à cette prison centrale de Mounzenzé des médicaments essentiels et du matériel médical pour la prise en charge des détenus malades. Le Fonds des Nations Unies pour la protection de l'enfance UNICEF et la coopération coréenne ont offert des kits scolaires à plus de 24 000 élèves du primaire de certaines écoles publiques de Kikwit dans la province éducationnelle Kwilu 2. C'était hier mercredi dans trois écoles en présence du ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique Eric Mouziazia. À Bandundouville, Irène Mboma.
Ils sont au total 24 408 élèves de la première et deuxième année primaire qui ont bénéficié de ces kits scolaires essentiellement constitués de sacs à dos, des cahiers, des stylos et autres. C'est une dotation de l'UNICEF et de la coopération coréenne dans le cadre du partenariat éducatif avec le ministère de l'EPST. Ces élèves sont ciblés dans 125 écoles primaires, notamment de la sous-division de l'EPST Kikwit 1, Kikwit 2 et 3, toutes dans la province éducationnelle Kwilu 2. C'est Eric Mouziazia, ministre provincial de ce secteur au Kwilu, qui a distribué symboliquement ses kits scolaires aux élèves de trois écoles de Kikwit, à savoir l'Epe Lukolela, l'Epe Ndungi et l'Epe Banakamongo. Le sous-prophète de Kikwit 1, Jean-Robert Talandula, est le point focal de cette province éducationnelle.
La première et deuxième, c'est là où nous travaillons pour l'inclusion des enfants à tous les niveaux. Les élèves de première et deuxième, recevoir des cahiers, c'est déjà une façon de se rassurer de la fondation même de l'école primaire.
Notez que dans le cadre de ces mêmes partenariats, 15 écoles seront construites et réhabilitées dans ces trois sous-divisions de l'EPST Kwilu 2 par l'UNICEF et la coopération coréenne, a annoncé Eric Mouziazia. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, la fondation Clinton Health Access Initiative accompagne le gouvernement congolais pour la mise en place des usines de production d'oxygène liquide et gazeux en RDC. C'est dans le cadre de la santé universelle. Les provinces du Kasaï oriental et du Congo central sont les premières ciblées par le projet. C'est ce qui ressort de l'audience accordée hier mercredi par la vice-ministre de la santé publique, Madame Véronique Kilumba, à une délégation de cette fondation. Des précisions avec le directeur pays de cette fondation, Jean Kaseya, est au micro de Jean-Marc Matouaki.
La bonne nouvelle, c'est que Chai amène des usines de fabrication d'oxygène qui seront mises en Mbujimayi et puis une autre, ce sera dans le Congo central. Notre fondation a appuyé le gouvernement pour conduire une évaluation des besoins. On s'est rendu compte que beaucoup de provinces n'ont pas l'oxygène et dans tout l'espace Kasaï, il n'y en a pas. Et cela expose des milliers d'enfants et de femmes à une mort certaine en cas de maladie. Son Excellence a été très sensible par rapport à ce message et elle a voulu que nous puissions par cette voie communiquer à la population de Mbujimayi cette bonne nouvelle et aussi à la population du Congo central. Les petites usines de fabrication d'oxygène n'est pas vraiment la solution pour la RDC. Nous devons fabriquer des grandes usines d'oxygène liquide et là nous savons que l'USAID a fait un grand travail déjà en appuyant cette vision. Et notre fondation a finalisé pratiquement les discussions pour commencer des usines de fabrication d'oxygène liquide, qui est un grand investissement. On n'en a pas encore en RDC. Et donc, nous pensons que ça, ce sera la solution pour faire en sorte que chaque Congolaise et chaque Congolais puisse avoir l'oxygène quand il en a besoin. Le projet est déjà entamé. Les usines de fabrication d'oxygène de Mbujima et du Congo central seront remises à son excellence dans les jours prochains, tandis que l'usine de fabrication d'oxygène liquide, il y aura quelques petites discussions techniques puisque les grandes discussions stratégiques ont déjà été bouclées pour voir maintenant comment commencer les travaux. Donc c'est vraiment un problème de semaines ou de mois pour que cette approche d'oxygène liquide commence en RDC.
Actualité internationale.
Au Mali, deux employés de la Croix-Rouge ont été tués mercredi après-midi dans l'attaque de leur véhicule à Kaye, à l'ouest du pays. La nouvelle est confirmée ce jeudi, selon les premiers témoignages recueillis par l'organisation. Des hommes armés qui étaient à moto ont ouvert le feu sans sommation sur l'équipe. Le président nigérian Muhammadu Buhari a rencontré ce jeudi matin à Madrid le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Hier après-midi, les deux dirigeants ont signé des accords et de mémorandums d'entente visant à renforcer les relations bilatérales entre le Nigeria et l'Espagne. Et puis, au 99e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce jeudi, l'armée russe resserre son emprise sur la ville stratégique de Donbass. Pendant ces temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce le fait qu'à la date d'aujourd'hui, environ 20% du territoire sont contrôlés par les militaires russes.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur du programme dénommé Pouvoir choisir, appuyé dans la province de l'Équateur par les Affaires mondiales du Canada. Dr Christian Malouk affirme que ce programme vise notamment la santé sexuelle et reproductive de jeunes filles, l'assainissement du milieu, la prévention des infections et le genre. Il s'entretient avec Paul-Richard Malengela.
Docteur Christian Malou, bonjour.
Bonjour.
D'abord, une brève présentation de votre projet.
Merci. Il s'agit bel et bien du programme Pouvoir choisir, qui est un programme qui s'intéresse à trois volets. Nous avons d'abord la santé de la reproduction et le droit sexuel, mais aussi le volet WASH-PCI et également le volet genre et plaidoyer. C'est un programme qui vise la jouissance des droits sexuels et reproductifs des jeunes femmes et adolescentes dans la province de l'Équateur.
Docteur Christian, tout à l'heure, vous avez donc présenté ce projet, mais quelle est la motivation? Qu'est-ce qui a amené à la mise sur pied de ce nouveau programme Pouvoir choisir?
En fait, il y a eu des études de base, des enquêtes qui ont été effectuées ici sur place dans la province de l'Équateur. Les enquêtes ont démontré que 50% de jeunes filles et adolescentes de la province de l'Équateur n'ont pas des notions, n'ont pas de connaissances sur leurs droits sexuels et reproductifs. Et 50% d'entre elles n'ont pas de notions sur l'utilisation de préservatifs ni sur la planification familiale. Donc ce sont là les raisons qui nous ont poussés à orienter ce grand programme dans la province de l'Équateur afin d'accroître la jouissance même de droits sexuels et reproductifs auprès des jeunes femmes et adolescentes en vue d'une autonomie corporelle auprès de ces dernières.
Quand on parle d'autonomie corporelle ou bien sexuelle, comment allez-vous faire pour que ce programme ne puisse pas heurter les coutumes de l'Équateur? Parce que la plupart tendent à considérer la femme comme une chose dont on peut jouir à sa guise.
Merci. En fait, nous allons procéder à des sensibilisations auprès des leaders communautaires, auprès des leaders religieux, auprès des autorités administratives et politiques de nos communautés, afin d'avoir leur soutien, afin qu'ils comprennent le mauvais côté des us et coutumes néfastes par rapport aux droits de la femme et des jeunes filles. Donc, nous allons les sensibiliser afin qu'ils puissent nous accompagner dans la mise en œuvre de ces grands projets, et c'est ainsi que nous aurons la pérennisation même des acquis de ce programme dans la province de l'Équateur.
Docteur, en revanche, certaines gens estiment aussi que ce genre de programme pousse les femmes à devenir de plus en plus insoumises, à mettre des conflits au niveau des foyers, au niveau des familles. Votre réaction?
Non, je ne suis pas d'accord avec vos affirmations, parce que maintenant...
Pas mes affirmations, mais c'est ce que la population...
Ok, merci. En fait, maintenant, nous faisons la promotion de la masculinité positive, dont la société étant tellement ancrée dans l'injustice, dans les inégalités du sexe, et là, nous voulons inverser la tendance. Donc, c'est maintenant que ce soit la femme ou l'homme, devons tous jouir dans un même niveau hein, nos droits sexuels et reproductifs. Donc, c'est ça même le bien fondé de ce programme. Ce programme tombe à point nommé pour essayer de réduire ces inégalités entre femmes et hommes dans la province de l'Équateur. Donc, ce n'est pas pour rendre la femme insoumise, mais au contraire, c'est pour faire la promotion même des droits de cette femme et jeune fille dans la province de l'Équateur.
Y a-t-il un message particulier à l'endroit de la population de l'Équateur bénéficiaire de ce projet?
C'est vraiment, nous sollicitons de leur accompagnement, l'accompagnement de toute la province de l'Équateur, des autorités, des jeunes filles et adolescentes, afin qu'ensemble, nous puissions mettre en œuvre les activités prévues dans ce grand programme qui est le pouvoir choisir.
Docteur Christian Malo, merci.
Merci.
C'était là l'invité de Radio Capi, le coordonnateur du programme dénommé Pouvoir choisir, appuyé dans l'Équateur par le Canada. Il était interviewé à Mbandaka par Paul Richard Malengela. Il est 18h20 à Kinshasa. Ainsi se referme ce journal. Merci d'avoir écouté.